message de l'évangéliste apôtre Georges Olivier Bassapois ont transformé la vie de milliers de personnes dans le monde et boosté le ministère de plusieurs hommes et femmes de Dieu. Aujourd'hui, c'est votre tour. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
La pensée qui va nous aider à comprendre tous ces éléments, c'est « ça va, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Ça va, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ça va, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Oh yes, oh yes. Jésus a gagné notre salut en restant sous les ordres de la mission qui lui avait été confiée par Dieu. Yes, c'est comme ça que Jésus a gagné ma vie et ta vie. Oh yes, ça va, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Luc chapitre 22, Luc chapitre 22, nous allons lire jusqu'au verset 39 au verset 46. Je vous demande à l'endroit où vous êtes de faire très attention. Ce que nous allons lire, c'est vraiment important. Mon but, pendant ces quelques minutes, je ouvre la séance à tous ceux qui nous suivent à l'extérieur et partout, pour nous montrer combien de fois ce que nous sommes en train de faire sont des choses importantes, des choses de grande valeur, des choses que Dieu aime, des choses qui sont dans le cœur de Dieu. Amen. Yes, les barres ne sont pas dans le cœur de Dieu. Les critiques ne sont pas dans le cœur de Dieu. Dieu n'est pas en train de construire la haine, la division, les divorces. Ce n'est pas ce que Dieu construit. Hein? Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas en train de voter des nouvelles, comme des lois, une loi qu'on vient de voter là, quelque part dans un pays qui commence par G. Il y a une loi qui est en train de vouloir passer, qui est en train de passer là. Ce n'est pas Dieu qui a inspiré ça. Dieu, lui, construit ce qui est saint, ce qui est vrai, ce qui est puissant, ce qui sauve l'homme. Ce qui sort l'homme du péché. Dieu ne construit pas beaucoup de choses que nous voyons là. Il ne construit pas ça. Parce qu'il vient détruire ça. Pierre sur pierre. Beaucoup de choses que les gens font là, Dieu vient détruire ça. Est-ce que vous savez que les gens sont en train de construire ce que Dieu vient détruire? Les gens sont en train de construire avec la sueur, avec leur dernière énergie, ce que Dieu lui vient détruire. Que Dieu t'épargne au nom de Jésus-Christ. Yes, que Dieu t'épargne de construire ce que lui vient détruire. Que Dieu t'épargne. Oh yes. Alléluia. Verset 39. Alors il s'agit d'un extrait de la vie de Jésus. Je vous demande de faire très attention parce qu'il faut que ça passe, cette orientation. Il est écrit. Après être sorti,
il alla
selon sa coutume
à la montagne des Oliviers. Ses disciples suivirent.
C'était une coutume pour lui. Hein? Il montait là-bas pour aller prier. Donc la prière doit devenir une coutume. Je parle à quelqu'un qui est là. Que la prière n'est pas une chose que tu dois redouter ou tu dois fuir. Il faut prier au point où la prière devienne pour toi une coutume. Yes. Donc que la prière n'est pas encore une coutume, pour toi, tu ne pries, tu n'es pas encore quelqu'un de sérieux dans le spirituel. Il faut atteindre le stade où la prière devient une coutume. Ça veut dire facile pour toi de prier. Tu aimes prier. Tu réponds aux invitations de prière. Tu pries longtemps et tu es passionné de prier. Il faut atteindre le stade où la prière devient une coutume. Beaucoup d'entre vous, la prière n'est pas encore une coutume. Ça te fait encore peur. Quand on dure, tu sens bien que c'est dur. Quand on dure, tu sens que c'est dur. Donc tu as encore possédé des mauvais esprits, mais par le nom de Jésus-Christ, ils vont sortir de ton corps. Dis Amen. La prière doit devenir une coutume, genre quelque chose de bien, quelque chose d'habituel. C'était sa coutume. Allons-y. Il alla comme sa coutume sur la montagne des Oliviers prier. On y va. Il est écrit.
Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu,
yes,
il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation.
La raison pour laquelle on prie, c'est pourquoi? Pour ne pas quoi?
Tomber en tentation.
Yes, on prie parce que les tentations sont partout. Et si tu ne pries pas, et la prière n'est pas une coutume, une des choses que tu vas vivre, c'est que tu vas à un moment tomber. tomber dans la tentation. Tout le monde est tenté. Même Jésus était tenté. Tout le monde est tenté par quelque chose. Si tu ne pries pas et si la prière n'est pas une coutume, tu vas tomber à un moment dans une tentation. Vous savez, la grande repentance dans laquelle on est nous fait savoir que il n'y a pas de péché que tu ne peux pas commettre. Quand tu es sincère, quand tu es sincère, quand tu n'es pas encore vrai, tu crois que tu ne peux pas, par exemple, sortir, coucher avec ton père, quand tu ne connais pas la vérité. Mais pourquoi ça a été écrit dans la Bible que les filles de Lot? Mais ça a été écrit pour te dire que, attention, ce péché-là existe. Si tu demandais aux filles de Lot, avant qu'elles ne sortent de Sodome et Gomorre, quand elles étaient encore avec... Elles étaient fiancées, oh. Les filles de Lot. Oui, les filles de Lot étaient fiancées. Lot a dit à ses gendres, allons-y, ils ont dit, oh papa, franchement, aussi. Comment tu vois tout le pays brûler? Ils se sont moqués de lui. Mais les filles de Lot avaient des amis. Je ne sais pas si c'est des amis, des copains, je ne sais pas bien, mais... Parce qu'à un moment on dit les gendres de Lot. Mais après, il n'était pas dans la maison. Et puis, bon, je ne sais pas si c'était des copains. Je crois que c'était des copains. Elles avaient. Et les gars sont restés. Et les filles, écoutez bien, les filles ont suivi leur père. Elles ont laissé leur gars. Vous lisez le texte. Leurs gars, les deux gars sont restés. C'est pourquoi on est marié, pas pour aller en enfer. Hein. On n'est pas marié pour l'enfer. On est juste marié pour le paradis. Mais si tu vas en enfer, je ne te suis pas. Yeah, on est marié. On n'est pas marié pour l'enfer. On est marié pour le paradis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Non, il y a des gens qui sont mariés pour l'enfer. Il y a des gens qui sont mariés pour l'enfer. Le mari dit quitte l'église. Le mari dit on ne prie plus. Elle ne prie plus. Ça, c'est le mariage de l'enfer. On n'est pas marié pour l'enfer. On est marié pour le paradis. Yes. On s'est lié pour aller au paradis. On ne s'est pas lié pour aller en enfer. Qui commence ce que je suis en train de dire? Yes, oui. On ne s'est pas lié pour aller en enfer. On s'est lié pour aller au paradis, pas pour aller en enfer. Et eux, ils sont restés. Ils l'ont amené. Et si vous demandiez à ces filles que, est-ce que où vous partez là, vous partez coucher avec votre père? Elles doivent te dire quoi? Oh, hé, attends. Elles pouvaient même s'énerver. Parce qu'elles ne savaient pas que quand on dit péché là, il s'agit de la puissance irrésistible de faire le mal. Le péché est une puissance et le péché est plus puissant que le diable. C'est pourquoi le diable a péché.
Amen.
Hey, même le diable a péché. Le diable lui-même, il a péché.
Choc.
Le diable lui-même, oh, il a péché.
Amen.
Donc le péché aussi amène le diable en enfer.
Amen.
Donc le péché est plus puissant que le diable. C'est la puissance irrésistible de faire le mal.
Oh, yes.
Yes. C'est pourquoi Paul dit... Dans 1 Corinthiens 7, il dit la puce, le bien que j'ai envie de faire, le bien dont je suis conscient qu'il faut faire, je ne fais pas. Et je fais quoi? Le mal que je n'ai pas envie de faire. Qui me délivrera? Yes. Oh yes. Donc faut pas te dire qu'il y a des péchés que tu ne peux pas commettre. Hein? Non. Prie. Protège-toi afin de ne pas tomber. Il ne faut pas te dire qu'il y a des péchés. Plus tu vas prendre de l'âge, plus tu vas te rendre compte que, mon Dieu Seigneur, je ne sais pas si je peux commettre tous les péchés du monde. Tu peux tuer. Tu peux tuer. Pas, ne crois pas que tu ne peux pas tuer. Tu peux tuer.
Amen.
C'est pourquoi prie afin de ne pas tomber.
Yes.
C'est la vérité. Il ne faut pas croire qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent dire, moi, je ne peux jamais te péder. Faut pas se dire, tu peux être le grand pédé du pays. Je te dis, tu peux te maquiller, faire grossir tes fesses, marcher un peu comme ça, juste pour que les hommes te regardent. Faut pas suivre. Je te dis, mais tu cries comme non, moi je peux devenir pédé. C'est parce que tu ne connais pas le péché que tu crois que tu ne peux pas devenir pédé. C'est parce que demandez à Caïn s'il avait prévu tuer son petit frère. Caïn n'a jamais prévu. Quand il jouait le ballon avec Abel, Caïn n'a jamais prévu tuer Abel. Jamais. Jamais. Oh yes. Quand Jésus a vu le cœur de Judas et qu'il savait que c'est Judas qui devait le vendre. Écoutez, Judas ne savait pas. Hein? Non, 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 non. Oh, Judas était sincère. Judas était très sincère. Quand Judas est venu vers Jésus, Judas ne savait pas qu'il allait vendre Jésus. Il ne savait pas. Pierre, est-ce que Pierre savait? Pierre a dit à quoi? Jésus dit quoi? Jamais. Jésus a dit, regarde, avant même que le coq ne sonne la clôture. C'est-à-dire, il ne savait pas. C'est pourquoi? Prie! Afin de ne pas tomber. Fais attention. Quand tu entends de dire Amen, tu écris. Est-ce que tu sais qu'un jour tu vas insulter ma mère? Quand tu vas quitter Bel-Air. Si tu vas insulter ma mère qui est morte. Ma mère est déjà morte. Tu vas insulter ma mère sans t'en rendre compte. C'est pourquoi prie. Pour ne pas tomber. Kayamana, satayamana. Prie pour ne pas tomber dans ça. C'est pourquoi on prie. On prie pour ne pas tomber dans ça. Yes. Personne n'a battu Jésus dans la prière. Mais pourquoi il priait autant? Pourquoi le Fils de Dieu priait autant? Pour ne pas tomber dans ça. Donc lui aussi pouvait. Yes. C'est pourquoi il priait beaucoup comme ça. Faites attention. Vous tous là, vous n'êtes pas des prieurs. Il a dit, tu n'es pas un prieur. On sent bien que, même toi-même, tu sais que la prière, ce n'est pas ton fort. Toi, ton fort, c'est la canne.
Choc.
Toi, ton fort, c'est voir qui va gagner la canne. C'est-à-dire, toi, ton fort, toi, tu es fort dans des trucs qui ne sont pas genre très importants. Si tu continues à négliger la prière, tu vas tomber dans ce que tu n'as jamais imaginé qu'un jour. C'est pourquoi pas la prière de l'église. Prie ta prière. C'est différent. Il y a la prière de l'église pour les objectifs de l'église. Mais il y a ta prière. Quand tu pries ta prière, de fond, on ne t'entend même pas. C'est-à-dire, c'est comme si tu rentres à l'intérieur de toi-même. Quand tu pries ta prière, de fond, on ne t'entend même pas. Tu sens comme. C'est comme si tu fais un retour vers toi-même. Tu as l'impression que. Tu as l'impression que là, c'est ton esprit qui parle à toi et à Dieu. Prie ta prière. Prie ta prière. Oh yes. Prie ta prière. Ta prière avec toute ta profondeur, avec ta sincérité. Ta prière qui supplie Dieu de te garder. Ou au fond de toi, tu supplies Dieu. Garde-moi. Protège-moi. Je t'en supplie. Protège-moi. Je sais que je suis faillible. Je sais que je peux manquer à quelque chose. Je ne m'appuie pas sur ma force. Je te supplie. Dieu, aide-moi. Je t'en prie. Je veux rester attaché à toi. Yes, je veux. Ta prière. Prie ta prière. Il faut que ta prière devienne ta coutume. Il faut que ta prière devienne ta coutume. Afin de ne pas tomber dans la tentation. Oh yes. Parce qu'on tombe. On tombe. Oh Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. Ne nous livre pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Comment Jésus nous apprend à prier et il inclut la partie là. Quand vous priez, dites-lui qu'il ne vous laisse pas tomber dans la tentation, mais qu'il vous délivre. Ah. Donc à chaque fois qu'on prie, on doit toujours dire à Dieu, ne me laisse pas tomber, mais délivre-moi du malin. Oh Seigneur, aide-nous. Pitié. Pitié, Seigneur, pitié. Je réalise qu'il y a des gens. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Ils me suivent là sur les réseaux sociaux. Ils me suivent en ligne. Ils sont chantres. Ils sont responsables. Ils sont pasteurs. Ils ont un bon cœur. Mais demain, ils vont me trahir. Pourquoi? Mais parce qu'il faut que le scandale arrive. Il faut que la trahison arrive. Malheur par qui ça va passer. Oh Dieu, protège-moi. David a dit, la honte, je ne veux pas être la honte de ton peuple. La honte va tomber sur ton peuple, mais que ça ne passe pas par moi. Que la honte ne passe pas par moi. On peut prier comme ça pour dire, Dieu, je ne peux pas empêcher que ça arrive, mais que cela ne passe pas par moi. Je ne peux pas empêcher que cela n'arrive, mais que cela ne passe pas par moi. Je t'en prie, Dieu, sauve-moi. Dieu, je t'en prie, sauve-moi. Que ça ne passe pas par moi. Que la trahison ne passe pas par moi. Que la déloyauté ne passe pas. Qu'abandonner l'église ne passe pas par moi. Dieu, je t'en prie. Je t'en prie. Il va avoir un étudiant qui va abandonner Dieu. Mais que ce ne soit pas moi. Pitié. Yes. Yes. Quelqu'un va se marier et il ne sera plus bien chrétien. Que ce ne soit pas moi. Pitié, Dieu. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je pleure. Je m'agenouille devant toi. Je crie ton nom. Je te supplie. Je te supplie, Dieu. Quelqu'un va recevoir une promotion. Après, il ne sera plus chrétien à cause d'une promotion. Que ce ne soit pas moi. Pitié, Dieu. Ça doit arriver, mais que ce ne soit pas par moi. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Quelqu'un va te renier dans sa vieillesse. Dans ses derniers jours, quelqu'un va perdre la foi. Que ce ne soit pas moi, Dieu. Pitié, je t'en supplie. Miséricorde. 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 Jésus dit, priez pour que vous ne tombiez pas. Priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Priez. Oh yes, oh yes. Oh. Oh. Miséricorde. Miséricorde. Oui, pourquoi? Oui, c'est la prière coule quand tu comprends de quoi il s'agit. C'est quand tu ne comprends pas que la prière est compliquée. Mais si tu comprends. Donc, de quoi il s'agit, ça sort seul. Tu ne forces même pas. Même sans les mots, tu pries. Quand tu comprends de quoi il s'agit, même sans les mots, tu sens comment ton cœur est en train de prier. Même sans les mots, ton cœur est en train de prier. Tu es en train de supplier Dieu. Tu es en train de demander sa faveur, sa grâce, sa faveur, sa grâce, sa faveur, sa grâce, sa faveur, sa grâce. Miséricorde, 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 ta grâce, ta faveur, ta grâce, miséricorde, ta faveur, ta grâce, miséricorde, pitié, miséricorde, Dieu, ta faveur et ta grâce, la miséricorde, ta faveur et ta grâce, miséricorde. Miséricorde, Dieu, miséricorde. Lushakaya maya maya mayelele mayelele. Écoutez, il y a eu la trahison dans le bureau même de Dieu, au sein même de l'équipe du Tout-Puissant, là où il n'y avait pas de péché, il y a eu la trahison. C'est pas sur nous qu'il n'y aura pas de trahison. S'il y a eu la trahison dans le ciel même, le chante principal de Dieu a trahi Dieu, le trésorier personnel de Jésus l'a trahi, c'est qu'il y a la trahison parmi nous. Mais ça ne t'arrivera pas. Demande Dieu, ça ne passera pas par moi. Ça ne passera pas par moi. Ça ne passera. Ça doit passer, mais ça ne passera pas par moi. Ça ne passera pas par moi. Pas par moi. Ça ne passera pas par moi. Si ça doit passer par les délégués, ça ne passera pas. Si ça doit passer par l'échange, si ça doit passer par le tchaba, si ça doit passer par les pasteurs, ça ne passera pas par moi. Ça doit passer par les apôtres, ça ne passera pas par moi. Miséricorde, je t'en supplie. Mon âme te supplie. Mon âme te supplie. Mon âme te supplie. Je te supplie. Miséricorde. Pour ne pas tomber dans la tentation. Miséricorde, Dieu. Ouh. Oh, ya, 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 ya. Maradia Kayabados. Limpidus. Limpidus. Midurus. Un soir, un matin, plusieurs fois, Jésus a dirigé des moments comme ça. Il disait aux apôtres, quelqu'un d'entre vous va me trahir. Et il priait avec eux. Il disait, quelqu'un va me trahir, prions. Tout le monde priait. Il y a quelqu'un qui ne priait pas. Et c'était Judas. Il ne priait pas, il comptait l'argent. Judas était distrait, il ne priait pas. Il n'avait pas compris au fond que la chose était déjà là. Elle se baladait au milieu d'eux. La chose était là. Elle était là, la force démoniaque était là. Judas a négligé ses temps de prière. Et,
Et c'est rentré dans son cœur. C'est rentré dans le cœur de Judas. Oh, miséricorde, miséricorde, miséricorde. Oh, yarabaya kaya mayinerete, yabaya paindelouche.
Quand nous allons terminer tout à l'heure la rencontre publique et que nous allons revenir à la rencontre privée, je voudrais prier pour certains d'entre vous qui n'arrivent pas à être emportés. Je peux le ressentir que tu ne connais pas prier avec, au point où ton âme est emportée. Même quand tu es sincère, tu es toujours bloqué à un niveau. Et parce que vous voyez, il y a les parvis. Et quand on est dans les parvis, il y a un instrument là. Et quand on dépasse le parvis, on avance, il y a un autre instrument là. Yes, il y a un autre. La cuve. Là où on se nettoie. Yes, là où les commandements nous parlent. Là où personne n'est juste. Alors tu peux pas atteindre la cuve et puis tu ne te sens pas coupable devant la sainteté de Dieu. Yes. La cuve est obligée de te montrer tes péchés, tes fautes. Et quand tu dépasses la cuve, tu rentres dans le lieu saint. Et là-bas, c'est impossible. Parce que là-bas, tu rencontres le Saint-Esprit. Tu rencontres la parole. Yes. Donc, au fur et à mesure qu'on s'approche, on est censé se rendre compte qu'on est coupable en face de la sainteté de Dieu. Oh yes. La lumière de Dieu éclaire sur toi et tu vois les taches que tu ne voyais même pas. Et donc je vais tout à l'heure, quand on va terminer la rencontre publique, je vais rentrer dans la rencontre privée, je vais prier pour certains d'entre vous pour que vous puissiez apprendre à avancer dans la sainteté et à reconnaître votre état coupable devant la sainteté de Dieu. Esaïe a dit, maudit soit mon âme. Jean lui était déjà apôtre, mais quand il est rentré, il dit, toutes mes forces me quittèrent. Et ça, il est tombé, toutes ses forces, parce que tu ne peux pas. Plus tu t'approches, même si tu ne voulais pas, sa sainteté te sert de miroir et tu découvres que tu es coupable. Oh yeah. Oh yes, c'était sa coutume. Jésus avait la coutume de monter, d'aller sur le mont, la montagne des Oliviers, et il priait. Et il dit à ses disciples, priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Alléluia. Yes, yes, yes. Assieds-toi maintenant. Kayamaraba Shakayabara. Oh yes. Yes, verset 41. Puis s'éloigna de à la distance d'environ un jet de pierre, s'étant mis à genoux. Il pria.
Oh yes.
Yes, c'est ça?
Yes.
Verset 41, verset 42. Écoutez.
Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe,
toutefois, écoutez,
que ma volonté ne se fasse pas.
Mais la tienne. Jésus a rencontré son tabac. C'est le tabac qui nous a sauvés. C'est le tabac, c'est l'or. Jésus a en face de lui quoi? L'or de sauver les hommes de toutes les langues et de tous les peuples par un sacrifice mortel. Va mourir à la croix pour les humains. Yes. Mais quand il arrive sur terre, Jésus fait des miracles. On voit bien son ministère est puissant. Et puis là maintenant, il arrive à la dimension où maintenant il doit faire ce pourquoi il est vraiment venu. Et ce pourquoi il est vraiment venu, c'est mourir pour tous les hommes, tous les pécheurs, porter sur lui les fardeaux et les péchés de tous les humains, y compris de ceux qui ne sont pas encore nés. Yes. Donc Jésus devait mourir à la croix en tant que voleur, bien que n'ayant pas volé. Jésus peut sauver une prostituée parce que Jésus est mort en tant que prostituée. Yes. Pour sauver une prostituée, il devait mourir comme s'il était prostitué. Jésus est mort en tant que brigand. C'est pourquoi il peut sauver les brigands. La raison pour laquelle Jésus peut sauver les francs-maçons et les résurrectionnistes, c'est parce qu'à la croix, il a porté. Jésus a été crucifié comme un magicien.
Amen.
Voilà pourquoi il peut sauver les magiciens. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on est en train de dire. Il ne faut pas croire qu'il y a des gens que Jésus ne peut pas sauver. Hein. Jésus peut sauver tout le monde parce qu'il a souffert à la croix pour tout le monde. Quand tu réalises ça, tu te rends compte qu'il n'y a aucun film qui a donc bien traduit la mort de Jésus. Jésus a été déshabillé, nu devant sa mère, ses disciples, tout le monde, crucifié à la croix de la pire manière. Yes, de la pire manière. Il mourait parce qu'il était en lui-même le rassemblement de tous les péchés des humains. Donc il devait mourir d'une mort sale. Jésus devait mourir d'une mort sale parce que il portait en lui tout le péché. C'est ça. C'est pourquoi il dit, revenez sur le verset. C'est ce qu'il est en train de dire là. Jésus est en train de ressentir. Il appelle ça cette coupe. Il appelle ça la coupe. Yes. Donc il prend l'image d'un verre, d'une coupe, et puis il dit, à l'intérieur de cette coupe se trouvent tous les péchés. Et je dois boire tous ces péchés pour sauver les humains. Alors il dit, Père, si c'est possible, est-ce qu'il est possible de ne pas boire cette coupe-là? Il dit, non, mais que ma volonté ne se fasse pas. Donc c'est un ordre. Les hommes ne peuvent être sauvés que si quelqu'un boit cette coupe. Les humains ne peuvent être sauvés que si quelqu'un prend leur place à la croix. Donc il prend la coupe. Il dit, oh, cette coupe. Regardez la suite des versets. Regardez, je vais vous montrer la suite des versets. Il faut que les hommes comprennent où on est en train de partir. Alors un ange lui est apparu du ciel. C'est le verset qui a suivi, c'est ça? Pour le fortifier. Oui, on y va.
Étant en agonie, il priait plus intensément.
Oui.
Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre.
C'est ça?
Yes.
Bon, vous expliquez ce que ça signifie, ce passage. Allons-y, avançons. Oui.
Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis.
Les disciples ne sont pas en train de vivre la même chose que lui. Ils sont ses disciples, mais ils ne sont pas encore vraiment ses disciples. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas son esprit. Ils n'ont pas son esprit. Ils sont avec lui, mais ils n'ont pas son esprit. Vous pouvez avoir des gens avec vous qui n'ont pas votre esprit. Donc eux, ils dorment. Lui,
il est en train de déprimer. Là, Jésus est en train de déprimer. Il fait même une dépression. C'est ça qu'on appelle l'agonie. Donc, Jésus commence à délirer. Il commence à délirer. Vous allez voir comment Luc, le médecin, nous présente ça. Allons-y. Verset suivant.
Il leur dit, pourquoi dormez-vous?
Yes.
Levez-vous et priez.
Oh.
Afin que vous ne tombiez pas en tentation.
Oui. Alléluia.
Amen.
Vous êtes là? Matthieu. Allons-y. Ça, c'était Luc. Allons-y avec Matthieu. Matthieu. Verset chapitre 26. Regardez, on va voir ce que ça signifie. On va expliquer maintenant pourquoi ces choses sont importantes, ce que nous faisons. Matthieu chapitre 26. Verset 30, à partir de verset 38 à 45. Oh yes. Oh yes. Verset 38, 26, 38 à 45. Il est écrit.
Il leur dit.
Yes.
Alors, mon âme est triste jusqu'à la mort.
Mon âme est triste. C'est ce que Luc a appelé à l'agonie là. Yes. Donc Jésus, quand votre âme est triste jusqu'à la mort, c'est l'expression qu'on peut utiliser pour parler de suicide. Wow. C'est la dépression. Triste au point de mourir. Donc il déprime. Jésus a atteint une dépression. C'est-à-dire quand il voit ce qui est dans la coupe, quand Jésus réalise. Parce que Dieu, à moi quoi? À moi la rétribution, à moi quoi? Donc normalement, la mort de Jésus est quoi? La vengeance de Dieu contre les criminels, les voleurs, les homosexuels, les lesbiennes. Donc Dieu dit, si vous me trouvez quelqu'un sur qui ma justice se venge, je ne punis plus les autres. Donc Jésus dit, laisse-les, venge-toi sur moi. Donc il prend sur lui tous les péchés. Et il demande à la justice de Dieu de se venger sur lui. Et quand Jésus meurt à la croix, Dieu n'est plus avec lui. Hein? C'est pourquoi il dit à Dieu, Père, hein? Elohim, Elohim. C'est ça, la bâche, tabachane. C'est-à-dire, Jésus, il dit, bon, pourquoi tu m'abandonnes? Parce que Dieu se retire. Parce que Dieu n'est plus avec lui. Dieu se venge de tous les péchés des humains sur lui.
Maintenant, wow, magnifique.
Dieu se venge. Et quand Jésus meurt, vous savez pourquoi il meurt? Il meurt pour les péchés passés, les péchés présents, et Jésus meurt pour les péchés que les hommes allaient commettre et qui n'existaient pas encore. C'est pourquoi là Matthieu dit, il est sûr, il est en train de marcher dans le jardin de Gethsémané, il sent la dépression. Il marche seulement, il sent déjà que l'heure de la vengeance de Dieu arrive, et donc il sent la dépression. Mon âme est triste à la mort. C'est ce qu'il ressent. Mon âme est triste à la mort. Oh yes. Oui. Regardez comment le tsava travaille.
Restez ici.
Yes. Il leur dit. Oui. Mon âme est triste à la mort, jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. C'est ça?
Yes.
Veillez avec moi. Il sent ça, ça s'approche. Ça s'approche. On y va.
Puis ayant fait quelques pas,
regardez, en avant, regardez.
Il se jeta sur sa face
et
pria ainsi.
Écoutez,
mon père,
si
possible que cette coupe s'éloigne de moi.
C'est la coupe là. La coupe là, il faut la comprendre. Tout à l'heure, je vous explique ça en privé. La coupe là, si tu ne la comprends pas, tu ne sers pas Dieu, même si tu es dans l'église. Il y a une coupe que tu dois boire. Tout le monde doit boire une coupe.
Amen.
Tout le monde. On ne sert Dieu que quand tu bois une coupe. La raison pour laquelle les gens abandonnent la foi, c'est parce qu'ils comptent être chrétiens sans boire quelque chose. Quand tu ne sais pas que tu vas boire quelque chose, quand tu ne comptes pas boire quelque chose, la coupe, les coupes là, tu les vois dans l'Apocalypse partout dans toute la Bible, tu vas voir ces coupes là. Quand tu es chrétien et tu sais que tu vas boire quelque chose, tu le sais. Tu le sais. Non, tu sais. Tu n'as pas une vie chrétienne évasive où tu fais comme tu veux, où tu deviens ce que tu veux. Tu vas boire quelque chose. C'est pourquoi Matthieu reprend la même chose, lui aussi. Il dit, mon père, si est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
non pas ma volonté, mais la tienne.
Que ma volonté ne se fasse pas. Que ma... Ça là, tu peux être comme tu veux, tu peux chanter, tu peux prier, tu peux être dans la sécurité, tu peux être dans l'accueil, tu peux avoir fait 10 ans dans l'église. Dès que tu n'as pas encore traité la volonté de qui se fait, la tienne ou le tsava.
Quand tu n'as pas encore traité ça, tu ne sers pas encore Dieu.
Il ne faut pas penser à tout. On est sur une seule chose. Quelle est la volonté qui maintenant doit s'accomplir? Le tsava ou ta volonté? C'est-à-dire, tu peux essayer de fuir en étant sincère. Ok, ça c'est bien, mais ce point-là reste là. Les miracles de Jésus, écoutez-moi bien, les miracles de Jésus, son ministère, choisir les disciples, voyager, marcher sur l'eau, tout ce que Jésus a fait, ne l'ont pas empêché de rencontrer la coupe. Donc, il ne faut pas te dire que parce que tu pries, parce que tu chantes, parce que tu es ceci. C'est d'autres sujets. La coupe est toujours là. Qu'est-ce qui s'accomplit dans ta vie? Ta volonté ou le tsava? Les activités que tu fais en Dieu ne peuvent pas t'empêcher de rencontrer cette partie de ta vie. Cette partie de ta vie est indiscutable. Tu dois la rencontrer. C'est ta volonté ou le tsava? Qui sait que Jésus a fait des miracles? Qui sait qu'il a marché sur l'eau? Qu'il a chassé les démons? Qu'il a guéri les malades? Jésus a fait beaucoup de choses. Mais tout ce qu'il a fait n'ont pas empêché qu'il vive cette période-là, cette séquence, la séquence ultime. Ça va ou ta volonté?
Yes. Regardez-moi le grand Jésus maintenant qui déprime. Le grand Jésus sous dépression.
Le grand Jésus, celui qui a dit à Satan, hey, éloigne-toi de moi, Satan. Hey, Satan, hey, ma soeur. Il est écrit. Donc, tout ce que tu peux faire avec Dieu ne va pas t'empêcher d'être dans cette séquence qui commande. Vous comprenez? Dès que tu ne traites pas cette partie-là, tôt ou tard, tu perdras la foi. Même si j'appelle 40 ans, tant que tu ne traites pas ça, Satan sait que tu es toujours un peu de son côté. Il ne faut pas suivre. Hein? Même si tu es engagé à fond, il sait que tu es toujours un peu de son côté. Ta volonté ou sa volonté? Ça va, c'est la volonté d'un supérieur sur un inférieur. Ta volonté ou sa volonté? Ta volonté ou sa volonté? Ne t'embrouille pas. Cette séquence de la vie chrétienne, tu ne peux pas la fuir. Ta volonté ou sa volonté? Qui prime? Et vous voyez, Jésus, regardez, asseyez-vous, on va lire, regardez. Vous suivez-moi, vous êtes venu quelque part au Canada ou en Afrique du Sud et tu me suis. C'est une partie que les chrétiens francophones essayent de vouloir dribbler Dieu. C'est pourquoi on a beaucoup de faux membres, beaucoup de faux chrétiens et même des faux pasteurs. On a des gens que vous ne pouvez pas amener à un degré d'implication parce qu'ils essayent de fuir cette partie. Ils veulent fuir ça par des services, par des ministères, par la puissance, par les comités. Non, on ne peut pas fuir cette partie-là. Jésus a fait tous les services du monde, mais il est toujours revenu là. Quand tu vois Jésus guérir les malades, tu pouvais déjà croire que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplissait dans sa vie? Non. Ça n'est pas dit que Dieu le commandait. Jésus a pris le corps. Il était comme un homme. Quand tu l'as vu répondre dans le désert à Satan, il a dit non, Satan, il est écrit, hein, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Tu pouvais croire que Jésus faisait toute la volonté de Dieu. Hein? Non. C'était juste une partie de la vie spirituelle. Voici la vraie partie ici. La coupe. Non pas ma volonté, mais la tienne. Il dit que ma volonté ne se fasse pas. Écoutez bien, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Là, c'est comme ça que Luc nous dit. Mais là, Matthieu lui nous dit, donnez-le Matthieu. Matthieu lui dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça là, quand
je crois que le grand problème du monde francophone, c'est qu'on ne traite pas ça. Et je crois que Bishop Dag, a des ingénieurs de toutes formes, des médecins qui travaillent à fond pour Dieu parce qu'eux, ils ont traité ça. Yes. C'est pourquoi dans le monde anglophone, on a des hommes d'affaires. On a des gens puissants qui servent Dieu, corps, âme et esprit, parce qu'ils ont traité ça. Nous, dès qu'on arrive là, les gens préfèrent leur volonté à celle de Dieu. Donc, ce n'est pas qu'on n'est pas appelé, on est appelé, mais nous, on s'arrête là. Nous, on est bloqué là. Les pères qui sont venus avant nous sont bloqués, étaient bloqués là. Les gens qui étaient sincères avant nous, avant qu'on ne soit chrétien, sont tombés là. Le monde francophone n'arrive pas à dépasser la limite là. Celle-là. Là. Oh yes. Vous êtes avec moi?
Oh yes.
Yes. Lisez, continuons. Il est écrit.
Et il vint vers les disciples.
Yes.
Qu'il trouva endormi.
Oui.
Et il dit à Pierre.
Pierre.
Vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi.
Oui. Une heure avec moi. Veillez.
Et priez.
Oui.
Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation.
Oui.
L'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible.
C'est pourquoi il faut prier. Parce que ta chair est faible. Oui. Oh yes.
Il s'éloigna une seconde fois.
Suivez bien. Il s'éloigna combien de fois?
Une seconde fois.
Combien de fois?
Une seconde.
Écoutez.
Et pria ainsi.
Mon père.
S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite.
Donc il a prié comme ça. Après il a dit à Dieu, écoutez, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Il a parlé aux disciples, mais c'était toujours là. Malgré qu'il ait dit ça, sa volonté était toujours là. Deuxième fois, Père. Le même qui a dit à Dieu tout à l'heure que ta volonté soit faite, il reprend encore. Père, pardon, éloigne la coupe. La volonté est revenue. Et la volonté là est revenue. Il refait une deuxième fois, Père, éloigne la coupe de moi. Après, il dit encore, bon, non, Père, que ta volonté soit faite. Regardez encore, suivez. Regardez. Avancez.
Verset 43.
Écoutez.
Il revint et les trouva encore endormis.
Il revient vers les disciples.
Car leurs yeux étaient appesantis.
Oui. Il leur dit quoi?
Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois.
Il retourne pour la troisième fois prier.
Répétant les mêmes paroles.
Quelles paroles? Si cette coupe peut s'éloigner de moi. Wow. Vous suivez ça? Donc Jésus a passé tout son temps à Gethsémané à vouloir faire sa volonté. Et chaque fois il disait, bon, fin la tienne. Donc c'était un combat entre quoi? La volonté de Dieu, le tsava, et puis sa volonté. Chaque fois, il répétait les mêmes paroles. Chaque fois. Maintenant, finissez les versets, je vais vous montrer ce que vous n'avez pas vu.
Verset 44-45. Puis il alla vers ses disciples et leur dit,
oh yes.
Vous dormez maintenant et vous vous reposez.
Oh yes.
Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs.
Oh yes. Maintenant suivez. Première question. Quelle était la tentation de Jésus? Deuxième question. Quelle était l'intensité de cette tentation? Quelle était la tentation de Jésus? Sa tentation c'était quoi? Tomber dans sa volonté. Savez-vous que Satan n'était pas là? Non. La plus grande des épreuves de Jésus était sa volonté. Dans le chapitre 4 de Matthieu, on dit bien que Satan était là, non? Là, on ne dit pas que Satan était là. Non, Satan n'était pas là. Vous savez ce qu'il avait fait, Satan? Quand Satan s'est éloigné de Jésus dans Matthieu 4 et Luc 4, vous savez ce que Satan a fait? Satan a marché autour de Jésus et ses disciples pendant tout le ministère de Jésus. Chaque fois que Jésus était en train de travailler pour Dieu, prier pour les malades, jeûner, prier. Jésus faisait tous les miracles et Satan lui faisait une seule chose. Il activait sa volonté. Satan était seulement en train, un peu comme on souffle le feu. On fait ça, non? Quand on veut que le feu augmente, n'est-ce pas? Donc, dans le ministère de Jésus, Jésus faisait tout. Écoutez-moi bien. Il chassait tous les démons, sauf le démon de sa volonté. Jésus avait tout vaincu dans son ministère, sauf le démon de sa volonté. Et Satan attendait Jésus au rendez-vous à Gethsemane. Et à Gethsemane, Satan n'avait plus besoin d'être là, puisque la volonté de Jésus elle-même allait faire tout le travail. Jésus était entre sa volonté et le tava. Le conflit de la volonté de Jésus et l'ordre de Dieu a amené Jésus dans la dépression. Les textes disent que Jésus s'est mis à prier intensément à un point où les vaisseaux sanguins ont explosé. Mais pourquoi, pourquoi Jésus se met dans cet état? Pourquoi Jésus déprime comme ça? Pourquoi Jésus tombe à genoux plusieurs fois? Pourquoi il répète les mêmes paroles? Pourquoi il devient comme fou? C'est parce que votre volonté est bien plus puissante que vous imaginez. Vous n'imaginez pas. Elle est contre le tava. Votre volonté est contre le tava, l'ordre de Dieu. Jésus est en train de devenir fou entre la volonté de Dieu et sa volonté. Chaque fois, il tend vers sa volonté. Il met la volonté de Dieu toujours à la fin de la prière. Hein. Il dit d'abord, que cette coupe s'éloigne de qui? De moi. Après, il dit, non, ta volonté. On sent bien comment sa volonté veut le récupérer. Jésus se bat contre sa volonté de toutes ses forces. Oui, de toutes ses forces. Puisqu'un ange est obligé de descendre du ciel pour fortifier Jésus contre sa volonté. L'ange ne vient pas fortifier Jésus contre le diable. L'ange vient fortifier Jésus contre sa volonté personnelle. Oh yes. Est-ce que vous comprenez? Quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que dans les tentations de Jésus, Jésus chasse le diable et Jésus chasse Satan. Jésus dit à Satan, oh Satan, il est écrit, tu adoreras le Seigneur lui seul. Mais dans ce passage, Jésus ne prie pas trois fois contre le diable. Il prie trois fois de toutes ses forces contre sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que la plus grande de cachette de Satan est dans ta volonté. Satan se cache au fond dans ta volonté. Satan est caché dans ta volonté. Le siège même du monde démoniaque, c'est dans ta volonté. La mort se trouve dans ta volonté. Les maladies se trouvent dans ta volonté. Amen. Les choses les plus graves se trouvent dans ta volonté. Wow. Quand tu ne verras plus Satan de tes yeux, sache qu'il est au moins caché quelque part. Yes. Il était où Satan? Pourquoi n'est-il plus là à Gethsemane? Il est où le diable? Pourquoi n'est-il plus là à Gethsemane? Mais parce que Satan a suffisamment soufflé. Il a mûri la volonté de Jésus. Car Jésus avait un corps comme tous les corps humains. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. La chair et ses vaisseaux sanguins ont explosé parce que l'esprit de Jésus-Christ était du côté de Dieu. Mais son corps, ses sens, ses projets, ses envies étaient contre Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça va. Si tu réussis à passer le ça va, tu as fini avec la chair. Yes, tu as fini. Il faut que tu réussisses à laisser la parole de Dieu te dominer à un point où seule sa volonté te domine. Oh yes. Trois fois, il répétait les mêmes mots. Une bagarre interne. L'ange, attends, si l'ange descend pour fortifier, fortifier signifie rendre plus fort, ajouter la force,
Si l'ange vient ajouter la force à Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il était plus le point de chuter. Jésus allait chuter. Le ciel a dit à un ange, rapidement descend. Va l'aider. Va l'aider. Yes. Descends. L'ange est descendu depuis le troisième ciel jusqu'au sur terre. Il a amené à Jésus quoi? Un renforcement de capacité à faire le tsava. Yes. Ah, un ange qui vient te fortifier sur terre. Un ange qui vient te rendre fort sur la terre. Dans la volonté de l'homme se cache l'enfer. C'est pourquoi il est écrit, celui qui fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là seul rentrera. Parce que dans la volonté de l'homme se cachent les plus grands des projets du diable sont dans la volonté de l'homme. Tout ce que Satan veut faire contre toi, il a déjà emmagasiné ça dans ta volonté. La mort précoce, l'échec total, échouer dans le ministère, être l'objet de scandales dans les réseaux sociaux et partout, ça se cache dans ta volonté. Si tu écoutes ta volonté, tu finiras maudite et maudit. Ta volonté est le plus grand poison que Satan a mis en place pour te détruire. Yes. C'est pourquoi ça va. C'est la guerre contre ta volonté. Il s'agit de livrer une guerre acharnée contre ta volonté. Tu dois savoir, écoute-moi très bien, si le dernier combat de Jésus, c'était de vaincre sa volonté personnelle, alors ton dernier combat est de vaincre ta volonté personnelle. Ton dernier combat, le combat que tu ne pourras pas échapper, auquel tu ne pourras pas échapper ou fuir, c'est celui que la volonté de Dieu se fasse et non la tienne. Clair. Ça, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux être pasteur, délégué, tu peux porter les robes, tu peux tout faire, porter la croix. Tu ne peux pas fuir cette séquence. C'est une séquence que tu ne peux pas échapper. Le tsava contre ta volonté. Le tsava, la volonté de Dieu, l'ordre de Dieu contre ta volonté. Oh yes. Une guerre intense. La plus grande des tentations. Le péché logé dans la volonté humaine. Le péché est logé même dans la volonté humaine. Ce que l'homme veut, Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas ce que l'homme veut. La volonté de Dieu est opposée à la volonté de l'homme. Tout homme qui fait sa volonté est opposé à Dieu. Qui comprend ce qu'on est en train de dire? Oh yes. C'est pourquoi vivre la vie chrétienne, c'est céder. Seigneur, à tes ordres. Yes. Entelomai. Seigneur, à tes ordres. Je fais ce que tu dis. Peu importe ce que ça me coûte, je fais ce que tu dis. Vous savez, c'est la première attitude qu'on avait quand on s'est converti. Mais depuis que tu es chrétien, Satan a soufflé sur ta volonté. Elle a repris le contrôle. Elle a grandi. Elle s'est animée de raisonnement et de pensée. Mais quand tu t'es converti, au début, tu voulais vraiment seulement faire la volonté de Dieu. Yes. Au début, quand tu es venu à Jésus-Christ, quand Dieu t'a touché pour la première fois, avant que Satan ne travaille ta volonté, avant que Satan ne mûrisse ta volonté, tu étais prêt à tout faire pour Dieu. Oh yes. Kaya dinketse kaya mandos. Qu'est-ce qu'il fait donc Satan? Satan ne compte pas utiliser les fusils nocturnes pour te détruire. Il ne peut pas. Il est comme un lion paralysé qui tourne autour de toi. Il ne compte que sur une seule chose. Satan n'a qu'une seule chose, la dernière des choses. Ta volonté dans ton cœur, Satan prie chaque jour que ta volonté mûrisse, grandisse, qu'elle soit au-dessus des versets que tu as lus, au-dessus des jeûnes que tu fais, au-dessus des prières que tu élèves. Il veut que ta volonté se fasse.
Et que la volonté de Dieu ne se fasse pas.
C'est ça sa prière. Il ne faut pas croire que parce que tu ne vois pas que Satan t'attaquer la nuit, le matin, il ne faut pas croire qu'il n'est pas au-dessus de toi. Il est là. Il est là, juste qu'il fait un autre travail. Il mûrit ta volonté. Il mûrit ta volonté. Il mûrit ta volonté. Il mûrit ta volonté. Pour qu'elle soit plus forte que tous les messages que tu écoutes. Pour que ta volonté soit plus forte que toutes les prédications que tu entends. Il mûrit ta volonté. Il souffle sur ta volonté. Pour que ta volonté mûrisse, qu'elle soit forte. Qu'elle soit dure, qu'elle soit indiscutable, pour que ta volonté soit mortellement indiscutable, et que devant n'importe quelle vérité de Dieu, ta volonté prime. C'est ce qu'il travaille, même si tu ne le vois pas, c'est ce qu'il travaille. Oh yes! C'est pourquoi nous disons Tchava! Yes. Ce que Dieu dit me commande. Non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Oh yes. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que tu veux.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message de l'évangéliste apôtre Georges Olivier Bassabois. Pour soutenir son ministère, veuillez nous contacter par email à l'adresse suivante apotregeorgeo@gmail.com ou au numéro suivant +241 62 90 45 46. Soyez bénis.